Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, épisode 323. Raoul Villeroy au micro pour, comme chaque semaine, prévoir les matchs de la semaine de NFL qui s'approche, la semaine 12. Et pour ça, je suis avec Grégory Richard. Salut Grégory.
Salut Raoul, bonjour à tous. On peut le dire qu'on débriefe un peu vu qu'on dévoile des spoilers.
C'est vrai qu'on débriefe un peu aussi.
Comme la semaine dernière, parce que la semaine d'avant, c'était un peu
vendeur. Ouais. Camille Sarben est à la technique. Salut Camille.
Salut.
Le podcast du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec, vous commencez à le savoir maintenant, la possibilité de regarder les matchs directement en streaming sur la plateforme. Si vous avez un compte à provisionner, alors inscrivez-vous en passant par le site, c'est encore mieux. Et faites vos petits paris, on vous donnera les cotes à la fin du podcast. Un choc en haut de la NFC, qui va récupérer la couronne, Grégory? C'est la question qu'on va se poser dans ce podcast. On revient aussi sur les pronos et sur les meilleures cotes de la semaine 12. C'est parti pour un nouveau podcast. Le choc de la semaine, on a choisi les San Francisco 49ers à 9 victoires et une défaite. San Francisco 49ers, tu m'as compris. À 9 victoires et une défaite contre les Green Bay Packers à 8 victoires et 2 défaites. Instant histoire, Grégory. Depuis 13 ans, il n'y a eu que 5 matchs entre deux équipes avec 2 défaites ou moins à partir de la semaine 12. Les deux derniers qui ont gagné ces 10 matchs ont gagné ensuite le Super Bowl. C'était les Broncos qui avaient battu les Pats en 2015 en semaine 12. Et les Seahawks qui avaient battu les Saints en 2013 en semaine 13. Est-ce que les Packers ou les Niners, est-ce que le gagnant de ce match gagnera le Super Bowl, Grégory Richard?
Ça paraît quand même un poil moins flagrant que les équipes dont tu parlais tout à l'heure, surtout
peut-être
quand on voit les niveaux de forme. Alors, Green Bay à 8-2, depuis le début de la saison, ça va. Il y a quand même quelques petits incidents de parcours, notamment cette défaite quand même assez large sur le terrain des Chargers.
Compliqué.
Qui est difficilement admissible, on va dire, vu la forme des deux équipes à ce moment-là. Du côté de San Francisco, paradoxalement, on a une meilleure fiche comptable, mais avec des sorties ces dernières semaines liées aux blessures, bien entendu,
on va y revenir,
où c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec notamment cette victoire très étriquée contre Arizona le week-end dernier. Donc, pour répondre à ta question, j'en suis pas persuadé à l'heure actuelle, et pourtant on approche de la 12e semaine de saison régulière.
Et ouais, tu annonces les blessures, on va commencer par ça. Du côté de San Francisco, il y a quand même énormément d'absents, parce que George Kittle, Matt Breida, Deebo Samuel et Manuel Sanders ne se sont pas entraînés cette semaine, et Mostert, l'autre coureur, a été limité à l'entraînement, donc pas sûr qu'il soit sur le terrain. Est-ce que ça risque pas de ralentir un petit peu cette attaque des Niners, qui a été plutôt efficace depuis le début de l'année, mais qui là chute un peu?
C'est un peu ça, très clairement. Moi, c'est sûr que s'ils arrivaient quand même à avoir cette attaque, on va dire, au complet pour compenser ce qui était un peu le cas l'année dernière, la défense qui était clairement pas au rendez-vous, mais une attaque qui arrivait à marquer des points, à être vraiment performante comme peut l'être, comme peut réussir à la mettre en place Kyle Shanahan. Là, c'est sûr qu'avec des pièces offensives qui manquent, il y a toujours le système qui est relativement identique, ne serait-ce que sur le jeu au sol, on peut changer de coureur, mais ça peut continuer de rester relativement efficace. Après, c'est vrai que dans les airs, ça fait quand même beaucoup de menaces en moins, quand on sait que Jimmy Garoppolo est clairement pas la valeur sûre, on dira, de cette saison offensivement du côté de San Francisco. Ça pose des questions contre une défense qui, encore une fois, a pu être ouverte sur certains matchs. Je pense au match des Eagles, par exemple, en début de saison régulière, mais qui, globalement, est quand même assez solide sous la coupe de Mike Pettine. Donc c'est vrai que, très clairement, à première vue, c'est pas un match-up qui peut tourner à l'avantage des Niners, en tout cas du côté de Kyle Shanahan et de son staff. Il va falloir vraiment se creuser la tête, on va dire, pour réussir à prendre à défaut Jair Alexander et Kevin King dans le domaine aérien.
Je repensais à un article qu'on a eu il y a pas longtemps sur Touchdown Actu qui disait que les kickers sont moins bons cette année statistiquement. Robbie Gould, le titulaire de San Francisco, est blessé. C'est Chase McLaughlin, pas facile à dire, qui le remplace.
Et en fait, je vous rappelle.
Oui, tout à fait. Et en fait, je voulais juste raconter que j'ai découvert que c'était un grand mélomane autodidacte. Il a appris à jouer du piano, du banjo, tout seul. Voilà, n'hésitez pas à lui dire une histoire, l'histoire de McLaughlin. C'est assez rigolo.
C'est original. Mais c'est...
Je me dis, s'ils vont
c'est bien de montrer aussi qu'il y a une personnalité derrière les casques.
Je me dis, s'ils vont au Super Bowl et que j'arrive à les croser, j'irai peut-être poser des questions musiques à Chase McLaughlin.
T'as vraiment envie de voir San Francisco au Super Bowl, toi.
Pourquoi pas? Ça me ferait une petite histoire. De l'autre côté du ballon, Aaron Rodgers face à la ligne défensive des Niners, il y a quand même un gros client. Maintenant, les Packers n'encaissent pas trop de sacs. Ils sont 21e moins bons, donc en fait ils sont 11e meilleurs.
Ils sont dans le top 10 à peu près.
Ouais, c'est ça, top 10, ils en ont encaissé 22. Et il y a peut-être un coup à jouer au sol, puisque la défense des Niners est la 20e au sol, que Aaron Jones en face est peut-être pas le coureur le plus prolifique en termes de yards gagnés, mais de touchdowns marqués, il est 2 ou 3e, je crois. Donc c'est une arme offensive importante. Est-ce que c'est la clé pour Green Bay, c'est d'amener Aaron Jones à distance pour aller marquer un touchdown?
Alors, je parlais du match face aux Chargers, c'est pas forcément une coutume. J'ai quand même la sensation que ces dernières semaines, Green Bay arrive à trouver une petite carburation en attaque quand même. Et en effet, tu l'as bien dit, notamment par l'émergence, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, enfin, la concrétisation du potentiel d'Aaron Jones, que ce soit au sol ou même en sortie de backfield, ce qui peut très clairement être une problématique un peu compliquée pour San Francisco parce qu'ils sont capables de mettre la pression. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de suivre durablement un running back qui va être relativement mobile et capable de les ouvrir sur des tracés intermédiaires? Ça va être une donnée assez importante à prendre en compte, en effet, du côté de Green Bay. Après, encore une fois, Aaron Rodgers, il n'est pas forcément dans les standards de MVP, mais il est quand même relativement solide.
Maintenant, il y a une grosse défense là en face. C'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense dans les airs.
Oui. Bah oui.
San Francisco.
Oui, on est d'accord. C'est celle qui concède le moins de yards dans les airs, avec notamment Richard Sherman qui revient à son meilleur niveau. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que c'est peut-être plus, comme je le disais, par rapport au profil d'Aaron Jones, mais peut-être plus le côté linebacker safety, où je suis un petit peu moins rassuré par cette équipe de San Francisco. Et je pense que c'est peut-être là-dessus. Il n'y aura peut-être pas besoin de les ouvrir sur des tracés profonds pendant tout match pour réussir à les prendre à défaut. Mais je pense qu'il y a quand même moyen, de par justement cette polyvalence, je dirais, au niveau de l'attaque, cette capacité à être à la fois dangereux dans les airs ou dans le sol. Ce que je disais à San Francisco, ça paraît un peu moins certain de ce qu'on voit au fil des semaines. Il y a quand même possibilité de, allez, en termes de points, d'en mettre au moins une petite vingtaine, je pense, du côté de la Californie. Oui, je pense en tout cas qu'ils se seront inspirés de ce qu'a montré Arizona la semaine dernière, qui n'a quand même pas démérité clairement offensivement sur ce match-là.
Très largement. Il y a un petit passif, je ne sais pas, mais ils se connaissent un petit peu, nos deux coachs.
LaFleur.
Je vais dire Mike LaFleur, non, Matt LaFleur. Et quel Shanahan?
Écoute, l'un a été le disciple de l'autre. Ils ont coaché ensemble à Washington, c'est sûr.
Sous les ordres de Papa Shanahan.
Exactement. Et à Atlanta, quand Kyle Shanahan était coordinateur offensif et Matt LaFleur, coach des quarterbacks. Donc voilà, après, il y a eu des trajectoires un petit peu différentes. Mais oui, c'est clairement la même école. Et c'est pour ça que, pour le coup, On a eu des affiches, on va dire, où des fois on pouvait se dire que ça pouvait être un petit peu cadenassé. Alors peut-être qu'ils vont se méfier, peut-être que, pour reprendre la fameuse expression, l'enjeu va tuer le jeu.
Mais j'adore ça.
En tout cas, je pense qu'offensivement, il y a moyen, justement, surtout quand on connaît le caractère notamment de Shanahan, de montrer un petit peu celui qui a le plus grand potentiel dans ce domaine-là. Et ce serait tout sauf une surprise, comme je disais, notamment par le biais du nombre de points que peut marquer Green Bay, qu'on ait mine de rien pas mal de points dans cette partie-là, peut-être au moins une cinquantaine, voire pas loin d'une soixantaine peut-être.
Non, entre les deux équipes, ok, ouais, très bien, nous sommes
bien. Mais ça reste conditionné, bien entendu, à ce que va donner l'attaque des Niners, parce qu'au-delà de la volonté de Shanahan, comme on le disait, il faut peut-être aussi que le personnel soit suffisamment à la hauteur, on est d'accord.
Exactement. Ton prono, du coup, pour ce match, Greg ?
Eh bien, c'est pas facile.
Non.
C'est pas facile du tout.
Moi, j'ai mis les Packers, hein, puisque comme je suis devant au point, on va en reparler tout de suite. Je te donne mon prono avant.
J'irai quand même avec San Francisco.
Pour gagner des points ou pour parce que tu aurais pris San Francisco ? La question se pose.
Il n'est pas facile ce match-là. Mais,
non, clairement pas.
De toute façon, j'aurai le temps de changer d'ici dimanche. J'y vais avec Green Bay comme toi, mais franchement, ça se joue vraiment à rien.
Ce qui se dit ici, normalement, fait foi. Hein, mais bon.
Ah bon,
on va voir. On verra ce que diront nos arbitres, et notamment Joachim qui tient les pronos à jour chaque semaine. On le remercie.
Sachant que la grille n'a pas encore été remplie, je précise.
Si, si, moi j'ai rempli. Tout est rempli.
Ah bon
oui, tout à fait. Avant, tu aurais dû regarder. voilà pour... Quel salopard. Voilà pour la fiche de la semaine. On passe à tous les pronos. Bon, ça va mieux quand même ces pronos après une petite semaine de mort. Finalement, on est un peu comme qui on pourrait être comme équipe, les Texans, tu vois, une semaine très bien, une semaine terrible, une semaine très bien, une semaine terrible, ou les Buccaneers. Enfin voilà, on peut être plein d'équipes.
Ouais, plus les Texans. Ouais.
Tu préfères les Texans
que moi aussi. Les Buccaneers, on sera à 55 points.
Hein. C'est possible. Donc la semaine dernière, Alain a fait 13, il passe encore à un point du perfect. C'est dommage. Raphaël et moi on a fait 12 et Greg et Camille vous faites 11. Ce qui fait que je reprends un point sur toi, Grégory.
Je sais, c'est triste. C'est
Raphaël et Alain sont à égalité à 96, Camille à 97, Greg à 102 et moi à 107. C'est beau, cette nouvelle génération de podcasteurs qui remplace les anciens podcasteurs, qui les reclassent au fond du classement.
Non, je ne crois pas. Non. Bon, on parle pour Raphaël, en tout cas.
Ouais, alors.
Moi, je l'ai toujours dit, ce qui me rassure, c'est au moins je reste éloigné un temps soit peu. Mais c'est bon, vrai. Dans l'optique des playoffs, il va peut-être falloir creuser un peu l'écart quand même.
Ouais, c'est mieux. Tous les pronos pour la semaine 12. Vendredi à 2h20 du matin, Texans contre Colts. Les deux équipes sont à 6 victoires, 4 défaites. On n'en a pas parlé en affiche de la semaine parce que vous écoutez peut-être ce podcast vendredi matin. Mais c'est une super affiche. Qui va remporter la couronne en AFC Sud ? Est-ce que c'est l'axe ? Alors, déjà, je ne pense pas que ce soit l'axe, ça se décide. La saison est encore assez longue pour les deux, même si tu auras un avantage en tie-break. Il doit rester quelques matchs de division à droite à gauche, donc ce n'est pas encore trop décisif.
En tout cas, c'est leur deuxième confrontation, puisque le duel qui avait eu lieu dans l'Indiana avait été remporté par les Colts à l'époque.
Ouais, tout à fait.
Alors, c'est difficile à analyser. On parlait des 49ers tout à l'heure qui avaient une infirmerie pleine. Manifestement, celle d'Indianapolis, elle a été assez gâtée également cette semaine. Alors,
T.Y. Hilton revient normalement, même si Marlon Mack reste sur le banc.
Je pensais à Marlon Mack. Il me semble qu'il y a Justin Houston en défense qui n'est pas là non plus. Enfin, il y a quand même deux, trois joueurs relativement importants, même sur la ligne offensive, où on sait que c'est un facteur qui est assez déterminant à Indianapolis ces derniers mois, où il y a quand même des petits pépins. Donc très clairement, sur ce match-là, malgré le retour de Jacoby Brissett, ce qui a fait du bien contre Jacksonville,
clairement,
ça me paraît quand même un poil rédhibitoire au moment d'aller affronter une équipe de Houston qui vient de prendre très cher à Baltimore, qui va peut-être vouloir à l'ego se remettre dans le bon sens en ayant vu Indianapolis revenir à hauteur. J'aurais tendance à y aller vers la Texans sur ce match-là.
Ah, bah tu vois, moi je prends plutôt les Colts. On disait mardi que c'était peut-être l'équipe la plus complète de la NFL, un peu sur tous les postes, quand tout le monde est là, c'est sûr. Mais bon, T.Y. Hilton, je trouve ça déjà un bon retour. Et puis, on a vu que les Texans pouvaient être limités. Après, voilà, c'est ce qu'on dit, les Texans, c'est toujours soit tu exploses, soit tu te fais exploser.
Ah oui, c'est ça. Mais les Colts, enfin, encore une fois, c'est conditionné aux blessures, mais on bien rappelle sûr qu'Indianapolis, ils sont capables de gagner à Kansas City comme de perdre contre les Dolphins un mois et demi plus tard. Mais...
Aussi, en tout cas, super affiche. Si vous ne faites rien de matin ou si vous voulez regarder en différé, on vous le conseille. Ça peut être un match très sympa, surtout entre deux équipes qui se connaissent. Dimanche à 19h, Falcons 3 victoires, 7 défaites. Buccaneers 3 victoires, 7 défaites. Tiens, ils ont la même fiche, j'avais même pas remarqué. Promis, je n'ai pas fait exprès. Des Falcons New Look, une défense retrouvée depuis deux semaines. Est-ce que tu es rassuré, Greg ?
Oui, je suis rassuré de savoir qu'on va rater les playoffs de peu parce qu'il y a des ajustements qui ont été faits au dernier moment.
C'est
dommage, ça. Je suis extrêmement rassuré.
Bon, les Falcons sont quand même plus perdus face à Tampa Bay depuis 5 matchs. Winston a lancé autant d'interceptions que Ryan a lancé de touchdown cette saison, 18. C'est une belle stat.
C'est la stat qui fait mal.
Ouais, un peu, je suis désolé.
Mais tu vois, après, on parlait des bugs tout à l'heure. Franchement, hein, c'est vraiment pas pour m'acharner, malheureusement. Et ça, c'est un fait. J'en suis le premier désolé pour les fans des bugs. C'est que malheureusement, tant qu'on n'a pas vu jouer Jameis Winston, on ne sait pas quel visage va avoir Tampa Bay. Donc, à la seconde où je l'ai vu jouer contre les Saints le week-end dernier, je savais qu'ils allaient perdre contre New Orleans.
Faudrait pouvoir pronostiquer, genre 5 secondes après le début du premier drive.
S'il y a Jameis Winston qui est dedans, ils ont une chance, encore une fois, sur un match de division où, encore une fois, l'écart n'est pas monstrueux entre les deux équipes, même si en effet sur ces deux dernières semaines Atlanta est quand même, paraît quand même largement au-dessus.
Atlanta a l'air plus fort quand
même. Mais on n'est pas à l'abri d'une rechute, d'un excès de facilité justement au moment où on se dit on a tapé deux équipes avec un bilan positif. Tampa peut freiner le jeu au sol des Falcons, mettre un peu de pression sur Ryan, mais je jouerai Tampa Bay parce que je ne joue jamais Atlanta.
Évidemment.
Mais bon, Atlanta est favori, bien entendu.
Bien sûr, je vais prendre Atlanta dans cette idée. Bills, 7 victoires, 3 défaites. Broncos, 3 victoires, 7 défaites. Les Bills assurent face aux équipes censées être plus faibles. Alors attention, parce que les Broncos ont cassé les pieds aux Vikings la semaine dernière, surtout en défense. On l'a vu, ils ont encaissé 0 points en première mi-temps côté Broncos. Maintenant, si tu regardes les moyennes de points, Denver met en moyenne 17 points et les Bills en mettent en moyenne 17. On encaisse en moyenne 17. Du coup, est-ce que si les Bills mettent plus de 17 points, ils sont sûrs de gagner?
Je ne sais pas. En tout cas, la tâche ne va pas être simple parce qu'il me semble que John Brown, leur receveur numéro 1, est très incertain. D'ailleurs, ça m'étonne que tu aies fait ton lancement comme ça. Tu aurais pu demander qui va avoir la clé offensivement, sachant que c'est Allen contre Allen.
C'est vrai.
Je suis un peu déçu, Raoul. Mais
je suis désolé, ça ne m'est pas venu.
Mais oui, du côté de Buffalo, très franchement, je pense pas que ça va être un super match offensivement. C'est un peu
pas
ton propos avec le faible nombre de points.
C'est ça. 17, c'est quand même pas beaucoup en NFL.
Oui, on est d'accord. Maintenant, même Denver, hein, il me semble qu'ils sont restés. Je sais pas s'ils ont marqué des points en deuxième mi-temps contre Minnesota, j'ai des doutes.
Si, puisqu'ils finissent à 23-26. Et du coup, ils en ont mis 3.
D'accord. Mais. Bah, honnêtement, Brandon Allen, il y a une défaite de peu à Minnesota, il y a une victoire contre Cleveland. En effet, ça peut être poil à gratter. Après, on voit que Buffalo, les matchs qu'il faut gagner, il les gagne. Donc, c'est pas un raisonnement très poussé, mais ça m'amène à miser sur les Bills, mais sans grande conviction non plus.
Sean McDermott a gagné son seul match joué en tant que head coach contre les Broncos. Donc, bon.
Ah ouais?
Ouais. Ouais.
Ça, c'est de la stat.
Grosse stat, t'inquiète. D'ailleurs, tu nous as pas donné la stat des sacs des Falcons tout à l'heure, je suis un peu déçu, mais bon. Moi, je prends les Bills aussi, qui normalement assurent face à ces équipes un peu plus faibles.
Ouais, je précise, parce que du coup, pour oui, pas laisser sûr les auditeurs dans le. Voilà, donc Atlanta, mais ça, je crois qu'on l'avait dit, ils ont fait 13 sacs et ils sont quand même 30e au classement de la Ligue.
13 sacs en 2 semaines.
13 sacs en 2 semaines. Ça en dit long quand même sur la pénurie défensive à ce niveau-là.
Bears, 4 victoires, 6 défaites. Giants, 2 victoires, 8 défaites. Sterling Shepard s'est entraîné côté Giants. L'an dernier, ça avait donné un match sympa, 30-27 en prolongation pour les Giants. Alors des équipes qui ont un peu changé, surtout côté Giants. C'est plus offensif du côté de New York, mais il y a 24 pertes de balles. C'est peut-être ça qui peut les flinguer dans ce match.
Par contre, on parlait d'un match où il n'y a pas beaucoup de points. Je ne sais pas si Trubisky était confirmé officiellement comme titulaire.
Bon, est-ce que c'est une énorme différence si c'est Chase Daniels?
Ah bah écoute, je ne sais pas. En tout cas, quand les Giants avaient battu Chicago l'année dernière, c'était avec Chase Daniels en quarterback des Bears.
Ouais, mais c'était encore Eli Manning en quarterback
des Giants. C'était encore Eli Manning, donc c'est vrai que là, après, c'est toujours la même chose. Daniel Jones ne démérite pas spécialement depuis qu'on lui a filé les rênes de l'attaque des Giants. Après, il y a encore et toujours ces fameuses pertes de balles. Quand tu te retrouves contre une défense comme les Bears, même si c'est peut-être un peu moins fringant que ce qu'on a pu voir l'année dernière avec Vic Fangio, même s'il y a quelques blessés type Danny Trevathan, il y a quand même une ossature qui est là et qui est capable, je pense, de faire déjouer et la ligne offensive des Giants et son quarterback. Donc, je dirais quand même Chicago. On a vu que quand il fallait battre Détroit, même par la peau des fesses, ils étaient capables de le faire. Je les vois quand même battre les Giants, qui ne sont pas des foudres de guerre depuis le début de la saison.
C'est vrai, mais pour une raison que j'ignore, j'ai pris les Giants. parce que, je sais, non, mais ils sont quand même un peu meilleurs en attaque, il y a peut-être un peu plus d'éléments, ça me rassure un peu de ce côté-là. En fait, je me dis, s'ils arrivent à contenir un tant soit peu Mac et la défense, ils peuvent s'en sortir. Ça va passer par là. De toute façon, il va falloir tenir Khalil Mack, hein, ça, c'est sûr.
Après, il faut maîtriser Saquon Barkley de l'autre côté, c'est pareil.
Oui, hein, non, quand il y a des arguments de part et d'autre de ce match-là.
La densité de travail de l'intéressé.
Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Bengals, 0 victoire, 10 défaites. Steelers, 5 victoires, 5 défaites. Ça peut paraître un peu sadique, mais je veux que les Bengals finissent en 0 victoire. Pourquoi ?
Oui, c'est sadique.
Ça leur ferait probablement beaucoup de bien pour l'avenir, de remettre un peu tout en question. Cette franchise, j'ai l'impression qu'elle décolle plus depuis des années. Et là, un vrai coup d'arrêt, ça ne pourra pas leur faire de mal.
Ils ont changé de head coach. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour débarrer ? Tu veux déjà qu'ils soient virés, en fait.
Il faut tout changer. Ça avait fait 27-3 en début de saison pour les Steelers. Qu'est-ce qui fait que ce match sera différent ? C'était déjà Mason Rudolph. Il avait fait 2 touchdowns, 0 interception et 124 déval.
Bah, forcément, ce qui conditionne un peu, c'est que, bon, alors déjà, au moins Pittsburgh, a priori, n'a pas bougé de. N'a pas changé d'endroit depuis une semaine, parce qu'ils étaient dans l'Ohio la semaine dernière, ils y restent cette semaine. En plus, ils ont quelques jours de plus.
Les Bengals ont joué jeudi soir. Ouais.
Donc ils ont quelques jours de plus de récupération. Forcément, c'est difficile d'occulter les conséquences du match contre Cleveland, parce qu'il va y avoir la suspension de Marquise Pouncey sur la ligne offensive, parce qu'il y a les blessures notamment de Juju Smith-Schuster, James Conner, sauf erreur de ma part, est toujours blessé également. Offensivement, il y a quand même une petite pénurie. Et alors oui, Mason Rudolph fait globalement le boulot, on dira, en l'absence de Big Ben. Maintenant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si le casting autour laisse un peu à désirer, alors attention, hein. En face.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
C'est le néant.
Voilà, c'est ça.
Non, mais disons-le.
Il n'y a pas grand-chose à Pittsburgh, mais il n'y a rien à Cincinnati.
Bah non.
Et on sait que, bon, ces dernières années, les Steelers, même quelle que soit la situation, ils n'aiment pas trop perdre contre les Bengals. Il y a un petit précédent.
Ouais, il y a un petit enjeu.
Mais je pense très clairement. Alors, les Bengals, ils ont encore les Jets et Miami d'ici la fin de la saison.
C'est pas foutu.
Mais je pense que s'il y a un match où, sur un malentendu, ils peuvent gagner, c'est peut-être celui-là avec une équipe de Pittsburgh qui va avoir peut-être un petit peu la gueule de bois au lendemain du match des Browns.
Du coup, tu joues les Bengals ?
Bah, je vois que t'as mis les Bengals.
Je me suis complètement gourré. Moi, je prends les Steelers. C'est une faute.
Je le dis très franchement, j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, je copie honteusement sur Raoul. Je dirais les Steelers. Je m'en mordrai les doigts sûrement lundi.
Peut-être. Browns 4 victoires, 6 défaites. Tiens, on en parlait. Dolphins 2 victoires, 8 défaites. Qu'est-ce que ça va donner en défense sans Miles Garrett ?
Bah, un pass rush un peu moins incertain. Ogunjobi joue ? J'ai un doute là-dessus. Parce que lui aussi, il était impliqué dans.
Il n'a pas été suspendu, a priori. De souvenir, il y en a deux suspendus côté Steelers et un côté Browns, non ?
Ah ouais, il me semblait que c'était l'inverse. Mais
Tu vois.
Bon, écoute, en tout cas, j'ai vu passer l'info en plus, mais je ne sais plus du tout si Ogunjobi sera là ou pas. Bon. Si les deux sont absents, niveau pression, même si la O-line de Miami, ce n'est pas la folie furieuse.
Il y a quand même, en attaque, en tout cas, beaucoup plus d'arguments côté Cleveland.
Ouais, mais on voit que c'est une équipe qui est capable de se tirer une balle dans le pied tout seul. Ah, encore une fois, ils restent sur deux victoires contre Buffalo et Pittsburgh. Mais est-ce que ça a vraiment été une orgie offensive de la part des Browns ? Est-ce qu'il y a vraiment eu le réveil attend de la part de Freddie Kitchens au niveau des appels de jeu ? J'en suis pas persuadé non plus. Donc, encore une fois, ils jouent Miami à 2-8, donc j'irai plus vers Cleveland, mais. C'est deux équipes qui vont quand même un peu mieux ces dernières semaines, donc attention, on n'est pas à l'abri d'un malentendu du côté des Browns.
On n'est pas à l'abri, mais on va prendre les Browns quand même. Saints a 8 victoires, 2 défaites, Panthers 5 victoires, 5 défaites. On a vu les limites de Kyle Allen la semaine dernière quand McCaffrey, alors j'ai dit muselé mardi, oui, il fait 191 yards de scrimmage, mais il ne met pas de touchdown. En face, il y a un énorme armada offensif des Saints. C'est deux équipes qui se connaissent bien, donc tu sais jamais trop comment le match peut tourner. Maintenant, sur le papier, il y a quand même un gros avantage en faveur de New Orleans.
Je me demande à quand remonte la dernière victoire de Carolina contre New Orleans.
J'ai oublié de regarder, c'est vrai que je regarde.
Qu'ils les avaient battus l'année dernière.
Je regarde souvent ce genre de stats, là, j'ai pas pensé à vérifier.
Ouais. Moi aussi, j'aurais dû checker ça, mais ces dernières années, oui, ça leur réussit pas trop. Et là, en effet, on voit que Kyle Allen, il est quand même un petit peu dans le creux de la vague. Les Saints, en plus, ça tombe bien parce qu'ils n'ont pas du tout un run-stop efficace capable de freiner McCaffrey. Ils n'ont pas du tout un backfield renforcé capable de surveiller justement ces possibles sorties de backfield.
Tu es ironique, bien sûr, hein, précisément.
Tout à fait.
Non,
tout à fait.
On ne sait jamais. Hein,
donc, très franchement, sur ce match-là, j'aurais du mal à dire Panthers, mais bon, je vais sortir l'éternel et fumeux. C'est un match de division. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais. Les Panthers sont clairement pas sur une bonne dynamique et je trouve que notre ami Ron Rivera, il commence à être un petit peu sur la sellette.
Peut-être un peu, ouais.
Même sans Cam Newton, ça ferait deux saisons avec des dynamiques très négatives pour finir la saison régulière, ça ferait un peu beaucoup.
Il a eu des belles saisons quand même du côté de Carolina. On ne pourra pas lui ôter ça. Les Saints donc.
Les Saints
pour moi aussi. Jets 3 victoires 7 défaites. Raiders 6 victoires 4 défaites. Souviens-toi en 1968.
Tu étais jeune.
Le Heidi Bowl.
Même pas conçu.
Puisque pendant que John Amatt essayait de contenir le retour des Raiders dans le quatrième quart-temps de match entre les Jets et les Raiders, la côte Est a vu le match s'interrompre pour lancer le début du film de Heidi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas pris en compte que le match pouvait durer un peu plus longtemps. Et donc, ils ont raté la victoire des Raiders et le retour de Daryl LaMonica. Je ne connaissais pas ce joueur. Ouais. Voilà, vous saurez qu'il y a un petit passif. Bon, c'est deux anciennes.
C'est 68, c'est l'époque John Amatt chez les Jets en plus, il me semble.
Oui, tout à fait. John Amatt jouait ce match-là.
Ah pardon, tu l'avais cité. C'est moi qui n'ai pas fait attention.
T'étais dans les Alpes.
J'essaie de me replonger, savoir où j'étais en 68.
Ouais, bien sûr.
Mais
en train de manifester devant Nanterre.
Autant pour moi.
Doute.
Mais donc oui, en effet, c'était un match qui était quand même très très attendu.
Oui, et puis voilà, c'est deux équipes historiques de la NFL. Donc toujours sympa pour le côté NFL 100 en plus, la centième de la NFL, c'est beau. Attention, il y a une meilleure défense au sol côté New York quand même. Derek Carr va devoir un peu assurer dans les airs et pas trop se reposer sur Josh Jacobs.
C'est un peu ça. Moi, c'est vrai que j'avais identifié ce match depuis quelques temps comme une possible surprise. Surtout que ça va mieux chez les Jets ces dernières semaines, notamment offensivement. Alors, on me dira, ils ont joué les Giants et les Redskins. Là, c'est un poil plus musclé, sauf que les Raiders, ils restent quand même sur une victoire un peu moche contre Cincinnati à la maison. Donc, comme on sait que les Jets, dans des saisons qui laissent un peu filer en fin de saison régulière, ils aiment bien se dire « Allez, on va remporter 2-3 pour se remettre un peu d'aplomb pour la saison d'après. »
C'est ça.
Ce serait pas impossible qu'ils épinglent les Raiders à domicile, mais j'irais quand même avec Oakland.
Moi aussi.
Pour jouer la sécurité, oui. Mais là encore, je serais clairement pas étonné que les Jets s'imposent.
Max Crosby aussi peut faire un peu mal à Sam Darnold sur ce match. On le voit qu'il est en grande forme. J'ai dit une très bonne défense au sol de New York. C'est la meilleure défense au sol.
Oui,
contre
tout à
la
fait.
Course.
Ah non, mais de toute façon, le run stop des Jets, il est ce qu'il est, hein. Il est performant depuis le début de la saison. Après, la O-line, on sait très bien que ça va être une plaie jusqu'à la fin de la saison.
Plus compliqué. Redskins, une victoire, 9 défaites. Lions, 3 victoires, 6 défaites, un nul. Alors, heureusement pour Dwayne Haskins, les Lions ne sont pas les rois du sac cette année. Ils sont 28e dans la ligue. Est-ce que c'est pas le match où Darius Guys peut enfin briller?
Je sais pas, mais ça va être un match moche.
Merci d'avoir résumé aussi bien.
On en a deux,
bien.
Trois, là.
Ah, cette semaine,
on a Buffalo, Denver. Là, celui-là, il peut être, encore une fois, il peut être assez vilain.
Ouais. Tu penses pas à Bears Giants tout de suite?
Oui, Bears Giants aussi. C'est vrai
qu'on, bon, bref,
on l'a cité tout à l'heure. Oui. Regardez pas cette semaine, en fait.
C'est la semaine prochaine.
Non, plus sérieusement, du coup, il y aura encore Jeff Driscoll, puisque Matthew Stafford, le meilleur quarterback de moins de 33 ans, est encore absent pendant un bon mois. Non, j'y vais avec Détroit, mais.
C'est à Washington. Sur ce terrain horrible.
Ouais, c'est à Washington, mais bon.
Fossoyeur.
Comme je l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, on ne voit clairement pas de direction offensive du côté de cette équipe des Redskins. Alors oui, le retour de Darius Guys peut permettre de mettre moins de pression sur Dwayne Haskins. Maintenant, tant que le quarterback ne sera pas décemment entouré, je parle surtout d'un point de vue coaching staff, je pense qu'il ne faudra pas en attendre monts et merveilles. Et voilà, il n'y a que des rookies ou des joueurs de deuxième, troisième année dans cette offense. Très franchement, ça devrait suffire pour Détroit pour s'imposer, même si eux, pareil, très clairement, ils ne sont pas dans une super dynamique.
Non.
Et voilà, Matt Patricia va peut-être falloir se poser quelques questions aussi à un moment donné, même si j'oublie pas qu'il y a un quarterback titulaire qui est pas là.
C'est sûr.
Et vu les investissements de l'intersaison, le déficit en termes de sacks, c'est, ça pose question.
On est d'accord. Moi, je vais prendre les Redskins parce que pourquoi pas. Eagles, 5 victoires, 5 défaites. Seahawks, 8 victoires, 2 défaites. Wilson, le magicien, est de retour après une petite semaine de repos. Sache que Doug Peterson n'a jamais battu les Seahawks en deux fois. C'est les seules notes que j'ai prises. Parce
jamais
que,
203 du coup.
Oui, en fait, ce match m'a l'air très incertain sur le papier parce que tout est possible dans ces équipes-là, en bien comme en mal. Donc, c'est assez difficile à pronostiquer.
Ah, moi, je ne sais pas. J'ai parié les Eagles contre New England pour la question de l'ego. Visiblement, de l'ego, ils n'en ont même plus. Donc, comme ça, à mon avis, ça va être une dure fin de saison. Paradoxalement, je continue de penser qu'ils sont toujours dans le coup parce qu'ils sont à une victoire des Cowboys. Le calendrier
les Cowboys
de Dallas, c'est pas voilà, on va y revenir tout à l'heure, mais le reste de la saison régulière des Cowboys, c'est pas forcément ce qui est le plus envieux. Il y a un Philadelphie-Dallas en avant-dernière semaine de saison régulière, petit teasing au passage. Je dirais quand même Seattle, les dynamiques sont clairement pas les mêmes et
mine semaine de rien, de repos, ça joue
en plus.
Et moi, je suis très impressionné de ce que fait Jadeveon Clowney. Je suis content de voir qu'il performe enfin à un niveau où on l'attendait. Du côté de Seattle, alors que chez les Texans, c'était moins...
Enfin, je ne vais pas faire le pisse froid. Je pense qu'il peut faire encore plus que ça. Mais
Bon. Non, bah, ça, je ne dis pas. Hein, mais bon. Moi, déjà, je vois une progression par rapport à chez les Texans.
Moi, c'est ce que j'attendais de voir. On le sent déjà un peu plus percutant, on dira, d'un point de vue pression par rapport à ce qu'on pouvait avoir à Houston, où on lui demandait de faire beaucoup de choses en même temps.
Là, face aux Seahawks, face aux Eagles.
Surtout si Lane Johnson est absent, ce qui devrait être le cas, oui, en effet, ça
il peut se montrer.
Ça peut poser quelques petits problèmes à Carson Wentz, en effet.
Il peut se montrer. Seahawks pour nous deux, donc.
Seahawks pour nous deux.
Dimanche à 22h05, Titans 5 victoires, 5 défaites. Jaguars 4 victoires, 6 défaites. Ça, c'est l'autre match de l'AFC Sud. T'as la belle affiche.
Et là, il n'y a pas de couronne avec Oyar Bonedan. Pourtant, les Titans sont pas loin. Hein.
Ben non, les Jaguars sont. Ouais, techniquement, les Jaguars sont à deux matchs. Hein. C'est encore jouable aussi. Mais bon, Jacksonville a quand même beaucoup de mal face à la course. Ils sont 29e de la ligue. T'as Derrick Henry en face.
On se rappelle de la dernière confrontation à Nashville entre les deux équipes avec cette course de Derrick Henry qui avait marché sur à peu près tous les défenseurs de Jacksonville.
Ah oui, littéralement marché en plus, dessus sur eux, comme ça. Ouais.
Donc, écoute, Tennessee ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Ryan Tannehill apporte. Beaucoup plus de garanties, j'ai mal à le dire. Il apporte beaucoup plus de garanties que Marcus Mariota, mais non, très clairement, c'est la vérité. Au moins, ça apporte une homogénéité dans cette attaque. Et bon. Tant qu'on parle des coachs sur la CL, de toute façon, voilà, Doug Marrone, je pense que là, il vit ses dernières semaines du côté de Jacksonville, parce que très clairement, il n'y a pas de vie, malgré le retour de Nick Foles. Ils n'ont pas vraiment existé, je trouve, du côté d'Indianapolis. Et là, bon, à Tennessee, je pense qu'ils vont s'accrocher un peu plus, mais je vois quand même Tennessee s'imposer sur ce match-là.
Et ben moi, j'ai mis les Jaguars. J'ai vérifié sur la fiche là-bas, j'ai mis les Jaguars aussi. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais m'y tenir. De toute façon, encore une fois, tout est possible. Dimanche à 22h25, Patriots, 9 victoires, 1 défaite. Cowboys, 6 victoires, 4 défaites. Il est joli, celui-là. Au départ, j'ai voulu mettre les Cowboys. Et en fait, je me suis souvenu que la défense de New England était quand même super forte, même face à Dak Prescott en très grande forme sur les derniers matchs. En plus, c'est à New England, dans le froid. Bon, je crois que les Patriots sont favoris. Maintenant, attention, faudrait pas laisser trop le ballon aux Cowboys parce qu'ils sont capables d'en faire quelque chose, quoi.
Ouais, c'est le retour de Michael Bennett à New England.
Oh oui, c'est vrai ça.
Te faire de ma part. Contre une ligne offensive qui est pas fabuleuse des Pats cette saison.
Non.
Un Robert Quinn qui tourne pas mal pour Dallas cette année. Il y a moyen peut-être d'aller chatouiller un peu Brady et de contenir un petit peu ce jeu au sol qui est quand même pas mal en difficulté cette saison à Foxborough.
Bon, c'est plus serré que l'affiche n'aurait pu l'être les deux dernières ou trois dernières années, par exemple.
Ouais, non, c'est ça. Après, est-ce qu'offensivement, les stats sont un peu trompeuses du côté de Dallas parce que d'un match à l'autre, il y a des matchs en gros où offensivement ça va être champagne à l'image de la semaine dernière à Détroit.
Même la semaine d'avant.
Et des matchs où ça va être beaucoup plus cadenassé. Je pense au match chez les Saints ou à d'autres confrontations de ce genre-là.
Contre les Jets aussi, ils ont un peu galéré.
Oui, contre les Jets, ils avaient un petit peu galéré aussi. Donc je pense que pareil, les Pats de toute façon, depuis le début de la saison, c'est surtout défensivement qu'ils font le boulot. Je ne serais pas spécialement étonné qu'ils arrivent à museler correctement Dak Prescott et à gagner ce match sans gagner de 30 points non plus. Quoi.
Après, il faut tenir Ezekiel Elliott aussi, hein, parce que là, on ne le voit plus trop ces dernières semaines, mais il est encore là. Donc, techniquement, si tu lui laisses de la place, bon. J'y vais aussi sur les Patriots, mais Attention à ne pas se laisser trop aller. Lundi à 2h20 du matin, 49ers, 9 victoires, 1 défaite, Packers, 8 victoires, 2 défaites. On l'a dit dans la preview. Tu prends les Niners?
Non, on prend les Packers.
Ah oui, tu prends les Packers, c'est vrai, t'as changé. Et mardi à 2h, c'est pas 2h40, c'est 2h15 du matin, Rams, 6 victoires, 4 défaites, Ravens, 8 victoires, 2 défaites. Alors tu vois, quand j'ai fait le truc, je me suis dit, les Rams ont 6 victoires? Ah bon? J'aurais pas dit autant. Bon, face à ces Ravens-là, ça m'a l'air difficile. Quels peuvent être les motifs d'espoir pour les Rams? D'autant qu'il manque quand même beaucoup de monde aussi en attaque côté Los Angeles.
Le motif d'espoir, que l'attaque soit beaucoup plus performante quand même, parce que la défense.
Il y a Todd Gurley.
Oui, c'est ça. Alors, on a vu que Todd Gurley avait été beaucoup plus utilisé contre Chicago. Et je trouve que bon, la défense démérite pas ces dernières semaines. Après. Offensivement, on n'est clairement pas dans les standards de Sean McVay depuis son arrivée. Donc là, très clairement, il va falloir. On sait que c'est pas mal tributaire des soucis de ligne offensive. Les Ravens mettent un peu moins de pression, même si en l'occurrence, contre Houston, on a vu qu'ils se sont fait pas mal plaisir à ce niveau-là.
Ouais.
Mais.
6 sacs, non?
Je crois.
Je crois qu'ils prennent 6 sacs.
J'ai pas tenu le compte, à vrai dire. Mais bon. J'y vais avec Baltimore parce que clairement, d'un point de vue dynamique, quand on a du mal à taper Chicago à domicile. Je les vois pas battre Baltimore qui a clairement le vent en poupe ces dernières semaines.
Largement.
Donc ouais, Baltimore à l'extérieur pour continuer aussi, sur ouais, cette série.
J'ai remarqué que j'en ai pris pas mal à l'extérieur, donc peut-être un petit risque.
C'est quand même le numéro 1 de notre Power Ranking quand même.
C'est vrai, gros dédicace à la team Power Ranking, je sais plus qui le fait cette année. Jonathan, non? Si, peut-être. Donc on l'embrasse. voilà pour les
qu'il
pronos.
Soit, on l'embrasse.
Voilà pour les pronos de cette semaine 12 et on passe aux meilleures cotes. Les meilleures cotes de la semaine 12 en NFL avec notre partenaire Unibet, c'est maintenant, c'est tout de suite 3 cotes, un combiné, c'est génial. Greg, ta cote?
Bah écoute, j'ai voulu mettre une cote un peu couillue, donc cote de 3 pour les Bengals, vainqueur wow. Face à Pittsburgh.
Les Bengals.
Alors comme je vous disais, on n'est pas loin du YOLO. Après, voilà, il y a en effet pas mal d'absents du côté des Steelers d'un point de vue offensif. Il y a une équipe de Cincinnati qui a l'orgueil sur un match de division à la maison, avec éventuellement quelques joueurs sur le retour. On peut se dire, bon allez, celle-là, on va aller la chercher, on va peut-être être un peu plus tranchant dans au niveau des lignes, etc. Enfin, encore une fois, c'est pas la cote la plus pertinente, l'analyse en tout cas,
la
plus pertinente.
La cote, elle est belle, hein.
Mais en tout cas, vu le contexte.
C'est la seule fois de l'année que tu peux parier les Bengals.
Voilà, très franchement, c'est ce qui m'incite à aller de leur côté, en l'occurrence, si on va avoir une belle cote.
C'est beau. Moi, j'ai pris les Raiders à 1,55 qui jouent les Jets. On l'a dit tout à l'heure, il va falloir que Derek Carr réussisse à tirer cette équipe vers le haut. Mais le réveil de la défense, plus le fait que Carr est quand même pas non plus un mauvais quarterback, me fait croire qu'il y a de quoi aller chercher New York, même si c'est là-bas de mémoire. Et enfin, troisième cote, les Seahawks contre les Eagles. Ça, c'est une grosse cote, hein, 88. Les Seahawks qui sont pas favoris de ce match, alors que pourtant ils ont une meilleure cote. Mais c'est parce que ça se joue à Philadelphie. Mm-hmm. Ouais, c'est souvent pour ça d'ailleurs. Pensez à vérifier quand il y a les cotes un peu serrées. Les équipes à domicile sont un peu avantagées. Donc voilà, ça fait un joli combiné pour 10€ misé sur les Bengals, les Raiders et les Seahawks. Ça vous fait 87,42€ de gain potentiel.
Merci Cincinnati, j'ai envie de dire.
Merci Cincinnati. Le YOLO, comme toujours, on garde les mêmes équipes. Donc les Bengals à 3, les Raiders à 1,55 et les Seahawks à 1,88. On rajoute les Packers, qui sont peut-être pour la seule fois de leur vie dans ce YOLO, mais ils sont à 2,20 face aux Niners, alors que clairement on les a pronostiqués tous les deux et qu'il y a... Enfin, c'est loin d'être.
Il y a pire.
Alors, désavantage, ouais, c'est un match-up qui est quand même pas désagréable quand tu sais qu'en plus il manque beaucoup de monde à San Francisco. Donc 2,20, pourquoi pas.
Par rapport à ce que tu vas mettre derrière, il y a pire comme YOLO.
Ça, c'est clair. Les Giants à 2,85. Ouais, bon, ouais, voilà, les Giants qui jouent les Bears, hein, c'est ça aussi. Tu te dis, bon, il suffit de mettre un tout petit peu plus de points qu'eux. Khalil Mack, bon, on fait 2 sacs, mais c'est tout. Provoque pas de fumble. Bon, pourquoi pas. Non, mais c'est du YOLO. Hein. De toute façon, je ne cherchais pas trop la raison. Hein. 2,85 en tout cas. Et les Redskins, tiens, à 2,30, qui reçoivent les Lions. Les Lions qui sont quand même pas dans la forme de leur vie et qui sont privés du meilleur quarterback de moins de 33 ans.
Là, j'avoue, bon, c'est sûr que niveau surprise, je tomberai pas de ma chaise si Washington tape Détroit.
Ouais. Non, voilà, donc 2,30, ça fait un petit yolo sympa, puisque pour ces 6 cotes misées pour 10 euros de mise, Cincinnati, Oakland, Seattle, Green Bay, New York Giants et Washington, ça vous fait 1395,65 euros.
C'est pas mal. Et alors, du coup, je vais pas te piger parce que du coup, on n'a pas fait le calcul, mais il y a même potentiellement plus parce que tu pariais sur Oakland. Si on met les Jets dans le YOLO à la place d'Oakland, les Jets sont à 2,10. Donc ça peut encore plus se faire augmenter la cote.
Ah ouais,
c'est parce qu'il y a plus négligeable.
Tu mets les Jets dans le YOLO. Je vais encore me faire taper dessus par les fans des Jets j'embrasse et que je salue, qui sont toujours très sympas. Mais
tu vas les casser quand même.
Mais pour moi, c'est non. Voilà.
Je suis avec vous, fans des Jets.
Quel vendu, celui-là. Voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode 323 de Podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci Greg d'avoir été avec moi.
Merci à toi, toujours un plaisir.
Mais n'hésitez pas, plaisir partagé. Merci Camille à la technique. Et pour la suite, c'est comme toujours, dimanche dans le fauteuil avec Alain à 18h et mardi pour le débrief, je ne sais plus avec qui, peut-être avec moi, tiens.
Je crois que je suis là pour une fois.
Ah, très beau. On est sur Twitter @TDActu, sur Instagram @TouchdownActu, sur Facebook @TouchdownActu aussi, et les comptes perso, c'est @YellowRadiosa pour Grégory et @CamilleSarben pour Camille et @RaoulVDG pour moi. L'émission du jeudi, vous le savez, vous est présentée par Unibet, le détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. On vient de vous donner toutes les meilleures cotes, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire en passant par le site et à en profiter pour regarder les matchs directement depuis la plateforme. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On vous laisse profiter de votre semaine 12 de NFL. Merci à tous, encore une fois. Ciao, bisous.
Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fishmode pour Marshall Lynch, Rocklass Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.